Chapitre 56. En arrivant à Rome, le premier soin de César fut de donner ordre au Sénat de se réunir. Le Sénat se réunit. César y apparut, non pas comme Louis XIV au Parlement, un fouet à la main, mais calme, sans humilité, comme sans orgueil. Il avait cantonné ses troupes dans les environs et était entré presque seul à Rome. Il n'avait donc pas les allures d'un dictateur. Il n'avait pas non plus la tenue d'un suppliant. Il avait l'aspect d'un homme sûr de son droit. Moralement, il avait fait son 18 brumaire. Il représenta aux sénateurs qu'il n'avait jamais aspiré à aucune charge dont la porte ne fût ouverte à un citoyen romain, qu'il avait attendu le temps prescrit par les lois pour briguer un nouveau consulat, que, malgré l'opposition de ses ennemis et les criailleries de Caton, le peuple avait décidé qu'il le pourrait consulter, quoiqu'absent. Il parla de sa modération, de sa patience. Il demanda qu'on se souvînt qu'il avait offert de licencier ses troupes si Pompée en faisait autant. Il démontra l'injustice de ses ennemis qui voulaient lui imposer, à lui, les lois qu'ils ne reconnaissaient pas pour eux-mêmes. Il les accusa d'avoir préféré mettre l'Italie à feu et à sang plutôt que de souffrir la moindre diminution de leur autorité. Il leur reprocha ses deux légions enlevées. Il rappela la violence dont on avait usé envers les tribuns et qui avait été telle que Marc-Antoine et Quintus Cassius s'étaient vus obligés de quitter Rome en habit d'esclave et de se venir mettre sous sa protection. Il rappela son insistance auprès de Pompée pour en obtenir une entrevue et tout régler à l'amiable et sans effusion de sang. Il pria, par toutes ses considérations, le Sénat de prendre avec lui soin de la République. Il ajouta cependant que si le Sénat lui refusait son concours, il prendrait soin de la République tout seul, pensant qu'il lui serait plus facile de se passer du Sénat qu'au Sénat de se passer de lui, c'est-à-dire que, sous une apparente modération, il se déclarait complètement le maître. Toutefois, il proposa d'envoyer vers Pompée une députation qui lui offrirait un nouvel accommodement. Le discours de César fut fort approuvé et même fort applaudi. Mais lorsqu'il s'agit de nommer une ambassade, personne n'en voulut faire partie. Pompée avait dit tout haut dans le Sénat « Je ne fais point de différence entre ceux qui demeurent dans Rome et ceux qui suivent le parti de César. » César avait été moins exclusif. Il avait déclaré qu'il tenait pour son ami quiconque ne lui faisait pas la guerre. 3 jours se passèrent en pourparlers et sans qu'on aboutît à rien. Le 3e jour, César renonça à sa proposition. Peut-être fut-il bien aise de n'avoir pu décider tous ses trembleurs. Pendant ce temps, la douceur de César, douceur à laquelle on cherchait un motif politique et dont on écartait la seule et véritable cause, à savoir quelle était dans son caractère, pendant ce temps, disons-nous, la douceur de César, inaccoutumée, inconnue, inouïe, en pareilles circonstances, rendait le courage à ses ennemis. Il en résulta qu'au moment de son départ pour l'Espagne, quand il voulut prendre dans le trésor de l'État l'argent dont il avait besoin pour se mettre en campagne, le tribun Metellus s'y opposa. « Et pourquoi cela ?» demanda César. « Parce que les lois le défendent, » répondit Metellus. César haussa les épaules. « Tribun, lui dit-il, tu devrais savoir que le temps des armes n'est pas celui des lois. Si tu souffres avec peine les choses que je vais faire, ôte-toi de mon passage. La guerre n'admet pas cette liberté de parole. Quand j'aurai déposé les armes, quand une convention sera faite, tu pourras alors discourir tout à ton aise. Je te dis cela par bonté, tribun, comprends-tu bien? Car je suis ici par le droit du plus fort. Car toi et tous ceux qui êtes ici, vous êtes à moi, vous m'appartenez. Je puis faire de vous ce que je veux, puisque, au bout du compte, vous êtes mes prisonniers. » Et comme Metellus voulait élever la voix, « Prends garde, lui dit César, car il me serait moins difficile de te faire tuer que de te dire que je vais le faire. » Metellus n'en voulut pas entendre davantage. Il se retira. César entra dans le temple de Saturne, trouva le trésor ouvert. On se rappelle que le consul Lentulus avait fui si vite qu'il n'avait pas eu le temps de le fermer, et il y prit sans difficulté tout l'argent dont il avait besoin pour faire la guerre. Suétone dit 3 000 livres d'or. Sur le point de partir pour l'Espagne et d'y combattre Afranius, Pétreius et Varron, les trois lieutenants de Pompée, il jeta un dernier regard autour de lui. Voici ce qu'il vit. Cotta tenait la Sardaigne, Caton la Sicile, Tubéron l'Afrique. Il donna ordre à Valérius de s'emparer de la Sardaigne avec une légion, à Curion de passer en Sicile avec deux légions et, dès qu'il aurait reconquis la Sicile, d'aller l'attendre en Afrique. Pompée était à Dyrrachium. Disons tout de suite que Dyrrachium, c'est Durazzo. Là, il rassemblait une armée et une flotte. Plus tard, nous énumérerons cette flotte et dénombrerons cette armée. Valérius partit pour la Sardaigne. Avant même qu'il fût embarqué, les Sardes avaient chassé Cotta. Celui-ci se sauva en Afrique. Quant à Caton, il était à Syracuse. Là, il apprend qu'Asinius Pollion, un des lieutenants de César, vient d'arriver à Messine. Asinius Pollion commandait l'avant-garde de Curion. Caton, qui ne savait encore rien de positif sur les événements de Brinde, lui envoie demander des explications sur la situation des affaires. Asinius Pollion lui apprend alors que Pompée est complètement abandonnée et qu'il est campé à Dyrrachium. Que les voies de la providence divine sont obscures et impénétrables, s'écrie Caton. Lorsque Pompée ne mettait dans sa conduite ni raison ni justice, il a toujours été invincible. Et aujourd'hui qu'il veut sauver sa patrie et qu'il combat pour la liberté, le succès l'abandonne. Puis, se recueillant en lui-même, « J'ai assez de soldats, dit-il, pour chasser Asinius de la Sicile. Mais il attend une armée plus nombreuse que celle qu'il a déjà. Je ne veux pas ruiner l'île en attirant la guerre dans son sein. » Qu'on nous pardonne cette pompe de langage. Toutes les fois que nous citons Plutarque, nous citons un grec et un grec de la décadence. Revenons à Caton. Il conseilla aux Syracusains d'embrasser le parti du plus fort et prit la mer pour aller rejoindre Pompée à Dyrrachium. Quant à Cicéron, il était toujours en Italie. Il avait toutes les peines du monde à faire son choix. Il ne revenait pas à Rome trouver César, il n'allait pas à Dyrrachium joindre Pompée. Cependant, il était à Cume, tout prêt à s'embarquer. Il ne s'embarquait pas, disait-il, parce que le vent était mauvais. Il reçut le même jour ses deux lettres, probablement le 1er mai. L'une d'Antoine, on sait les motifs de haine qui existaient entre Antoine et Cicéron, l'autre de César. Voici la première. Antoine, tribun du peuple et proprétaire, à Cicéron, impérator, salut. Si je ne t'aimais, et beaucoup plus que tu ne veux croire, je ne m'occuperais pas d'un bruit qui court ici, et que je crois parfaitement faux. Mais plus je te suis attaché, plus j'ai le droit de m'occuper d'une rumeur, fût-elle sans fondement. Tu vas passer la mer, toi à qui ton Dolabella et ta Tully sont si chers, toi qui nous es si cher à tous, que par Hercule, je te le jure, ton honneur et ta considération nous touchent comme toi-même. Je tiens à te convaincre que, César excepté, il n'y a personne pour qui j'ai plus d'affection que pour toi, et qu'il n'est personne à ma connaissance sur le dévouement de qui César compte plus que sur le tien. Je t'en supplie donc, mon cher Cicéron, ne t'engage dans aucune démarche qui te lie. Garde-toi de qui a déjà été si ingrat envers toi, et ne va pas, pour suivre cet ingrat, fuir comme un ennemi, l'homme qui, ne t'aima-t-il point, voudrait encore, si grand est le cas qu'il fait de toi, te voir puissant et honoré. Je t'envoie cette lettre par Calpurnius, mon ami particulier, afin que tu saches à quel point j'ai à cœur tout ce qui se rapporte à ton salut et à ta gloire. Le même jour, nous l'avons dit, Cicéron recevait une seconde lettre de César, celle-là apportée par Philotime. César, impérator, à Cicéron, impérator, salut. 17 avril. Il n'y a rien à craindre, n'est-ce pas, et tu n'es point homme à rien faire imprudemment. Cependant, troublé par certains bruits, je juge à propos de t'écrire. Au nom de notre amitié, ne te rallie pas à une cause perdue. Tu ne voulais pas de cette cause quand les chances étaient entières. Refuser de te ranger du côté de la fortune, ce serait non seulement outrager l'amitié, mais encore te faire tort à toi-même. Tout ne nous a-t-il pas réussi? Tout ne leur a-t-il pas été contraire? Tu ne suivras pas une cause qui est la même que celle au conseil de laquelle tu refuses de prendre part. Il paraît que, sans m'en douter, j'ai commis quelque action bien condamnable, car rien de ce que tu pourrais faire contre moi ne sera plus grave que de faire quelque chose pour mon ennemi. Garde-toi donc de quitter l'Italie. J'en appelle à ton amitié. J'en ai le droit, il me semble. D'ailleurs, la neutralité n'est-elle pas, dans les circonstances où nous sommes, la situation qui convient à un homme de bien et de paix, à un bon citoyen ? Quelques hommes qui pensent ainsi ont été jetés hors de la voie par un sentiment de crainte et de doute sur moi-même. Mais toi, toi qui sais ma vie entière, qui peux en interroger toutes les actions, qui connais mon amitié, dis, que peux-tu faire de mieux que de t'abstenir ? En marche pour Rome. Toutes ces instances échouèrent. Cicéron partait de Cannes vers le commencement de juin, et le 11, il écrivait du port de Gaète à sa femme Terentia qu'un grand vomissement de bile venait de mettre fin à cette indisposition qui le clouait à terre, et qu'en femme pieuse et fervente qu'elle était, il la priait d'offrir un sacrifice à Apollon et à Esculape. Quelle peur il avait de se compromettre, ce pauvre Cicéron ! Même avec les dieux, puisqu'il ne séparait pas plus Apollon d'Esculape qu'il ne séparait César de Pompée. Les premières nouvelles que l'on a de lui après cette lettre sont de l'Épire, en date du mois de février de l'an 706 de Rome, 47 ans avant Jésus-Christ. Cicéron entrait dans sa 60e année.